Alors, Francisco Palacio Espaza, psychiatre, psychanalyste, psychanalyste clénien, bionien, tu nous diras plus.
Psychanalyste.
Professeur de l'université et chef de service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à Genève. C'est correct ?
Tout à fait.
Donc en 93, la pratique psychothérapique avec l'enfant, donc ça c'était chez Bayard. La même année, un livre tout à fait fondamental pour beaucoup d'entre nous, on l'a lu et relu, moi j'ai une copie qui est vraiment usée par le temps, La pratique des psychothérapies mère-bébé, écrit à quatre mains avec ton complice Kramer, dont tu as pris la chefferie de service à la fin de son mandat. Et puis, plus récemment, avec Manzano et Zilka en 99, les scénarios narcissiques de la parentalité. Bon, et je crois que Bernard aura un certain nombre de choses à dire que je lui laisse formuler sur les objectifs et les tenants et les aboutissants cliniques de ces différents parcours. Donc aujourd'hui, on arrive à dépression de vie, dépression de mort. Moi, je me demandais si ça n'était pas une suite lointaine d'un chantier, d'un article de toi de 77 dans la Revue française de psychanalyse, défense mélancolique versus défense maniaque. Moi, j'avais lu cet article, j'étais encore en culotte courte et j'avais été très impressionné de la façon dont ça me parlait cliniquement, en dépit de l'inexpérience que j'avais. Ça avait été une sorte de boussole qui m'avait aidé à penser la complexité de la clinique que je découvrais à l'époque. Donc voilà, je te passe la parole. Tu as le temps qui te convient. Ensuite, Bernard sera ton discutant. Et puis, il sera temps de débattre tous ensemble. Et je compte sur vous pour affûter vos questions et vos commentaires.
Le premier article que j'ai écrit en psychiatrie, c'était en 67, deux ans après avoir fini la médecine, sur la défense maniaque. Et le deuxième, c'était sur la pulsion de mort et la mélancolie. Donc c'est une vieille obsession, tu me diras, le problème de la dépression. Et le problème de la manie aussi. Et le problème de... Je crois que si on les regarde, il ne faut pas que je m'attarde trop, parce que c'est un peu mon dada, ce livre est un peu un aboutissement, vous voyez, depuis de très longues années de ma pratique clinique, comme tu dis. Et c'est vrai qu'une des choses qui m'avait le plus impressionné quand j'étais interne à l'hôpital psychiatrique avant de finir mes études en 1965, était quand même, beaucoup d'entre vous, vous êtes trop jeunes, mais Michel s'en rappellera, était quand même... Combien désarmés nous étions sur le plan pharmacologique et combien l'arrivée des antidépresseurs, que j'ai vu arriver, puisqu'ils venaient, ils s'essayaient quand j'étais interne en Espagne à ce moment-là, a signifié un instrument, un complément tout à fait fondamental au neuroleptique. Et puis petit à petit, vous avez vu à quel point les antidépresseurs, c'est encore les médicaments par excellence en psychiatrie de nos jours. C'est encore celui qui a gagné du terrain sur les troubles névrotiques, des types phobiques, sur le trouble obsessionnel, sur les troubles alimentaires, sur etc. Je m'en passe. Il y a eu Mélanie Klein qui a passé, depuis le début de son œuvre, dans les années 20 jusqu'à les années 40, à s'occuper essentiellement de la problématique dépressive, hein, de ce qu'elle a décrit comme la position dépressive, après avoir flirté avec ce qu'elle a appelé la position maniaque, et qu'ensuite elle a changé, elle a parlé de défense maniaque, etc. Eh bien, c'est quand même c'est un apport capital sur lequel je m'inspire. C'est pour ça que quand tu dis « Est-ce que j'aurai une inspiration kleinienne ?» Sûrement, pionnienne sûrement, mais essentiellement freudienne, parce que je pense que l'axe central de la conflictualité dépressive est encore le vécu de perte d'objets. Le vécu de perte d'objets dont Freud, avec son génie, a mis l'accent en 1926, l'inhibition de symptômes et angoisse. Il a mis l'accent de l'angoisse sur la perte d'objets, comme étant... l'événement psychique par excellence pour lequel il fallait se prémunir d'une angoisse automatique qui devient désorganisante, ainsi qu'il a parlé d'angoisse signale, etc. Et la plupart des notions kleiniennes de position dépressive sont axées sur ce travail d'inhibition de symptômes et angoisse. Et la plupart des travaux post-kleiniens qui traitent de la dépression et de la dépressivité tournent autour de cet article de 1926 qui a changé la théorie freudienne d'être centré sur la pulsion à la centrer sur la relation d'objet. Et à partir de là, les kleiniens ont développé davantage la notion de relation d'objet. Mais de toute manière, c'est pas les kleiniens qui se sont les plus occupés du problème de la perte d'objet. Elle est implicite dans la théorie de Margaret Mahler, de la notion de séparation et individuation, ce ne sont que des phases autour de la notion de perte d'objet et son, la manière comme l'enfant s'organise par rapport à cette perte, je vais rentrer dans les détails. Bowlby, avec sa notion de dépression ou son concept même d'attachement à l'objet de la sécurité, reprend cette même idée. C'est-à-dire, c'est l'idée que la perte d'objet, et c'est l'idée centrale de ce livre, suivant dans le type d'organisation psychique qu'elle ait vécu, elle entraîne des modalités d'angoisse d'une telle intensité que peuvent être très désorganisantes cette angoisse et ce vécu qui se rattache à la perte d'objet, ou si, dans les formes plus régressives de fonctionnement psychique, ou peut-être, à l'opposé, très organisante et très structurante pour permettre l'organisation des défenses névrotiques, voire même de la symbolisation, la mise en place de la symbolisation comme mécanisme de défense, qui est encore la manière la plus réussite avec la sublimation de se prémunir contre le vécu de perte, défensivement contre le vécu de perte d'objet. Défensivement toujours. Ce qui veut dire, pour le dire très rapidement, que la notion de position dépressive de Klein, qui est, vous le savez bien, la notion qui applique la notion d'intégration de l'objet dans ses caractéristiques bonnes et mauvaises, c'est-à-dire gratifiantes et frustrantes, du moins dans ses dimensions libidinales et agressives à l'égard de cet objet, cette notion, tout en étant une notion clé de la théorie psychanalytique, de mon point de vue, est une notion trop large, trop vague, trop générale. Et le but de cet ouvrage était de la clarifier, de la spécifier davantage les paliers de la conflictualité dépressive entre ce que Klein amène l'entrée dans la position dépressive comme une mélancolie in statum nascendi, qui est, que Jean Rivière l'a décrit, un état de chaos et de catastrophe dans lequel se vit le sujet envahi de fantasmes, de destruction d'une telle ampleur qu'il ne peut que faire retour à des mécanismes de défense de nature psychotique, c'est-à-dire au fonctionnement schizoparanoïde, jusqu'à ce qu'elle appelle l'intégration de la position dépressive, qui est celle qui ouvre la voie à la réparation, dit-elle. C'est une autre idée de la réparation. Elle lui donne une ampleur très grande comme étant les mécanismes intégratifs par excellence. De mon point de vue, je ne la glorifierai pas autant, mais enfin, il ne faut pas s'attarder sur les détails. Pour moi, la réparation est soit maniaque, soit mélancolique, la plupart des fois. Et c'est beaucoup plus important la reconnaissance de l'objet dans l'investissement des caractéristiques propres qui fait l'acmé de l'intégration de la position de Christ. Enfin, c'est un détail. Si on reste dans l'intersubjectivité qui est devenue très à la mode, surtout dans la théorie psychanalytique américaine, je crois qu'on perd de vue une dimension qui est quand même fondamentale, qui est la dimension motivationnelle. C'est comme si, motivationnelle, c'est comme si on a des relations pour les avoir, et que c'est en ayant des relations qu'on se développe et qu'on surmonte les conflits de l'existence, qui sont des relations ou des manques de relations. Je crois que la théorie motivationnelle est fortement ancrée dans les pulsions et fortement ancrée dans les fantasmes. Et qu'elle, à son tour, est fortement ancrée sur les angoisses qui surgissent des relations interpersonnelles. Parce que la théorie intersubjective ne vous répond jamais à la question « Mais qu'est-ce qui se passe quand l'enfant n'est pas en interaction ?» Et qu'est-ce qu'il vit et comme sentiment, plutôt comme angoisse, et comment est-ce qu'il s'organise alors vis-à-vis d'un tel vécu et d'un tel sentiment. Bien dans la... Je vais aller vite, hein, mais dans les paliers de la conflictualité dépressive que j'essaie de décrire, quand la perte d'objet, c'est-à-dire le sentiment de ne pas avoir un objet à disposition pour besoin de sécurité, disons, avec Paul. L'idée dont je ne m'éloigne pas trop, c'est notion, et puis Bernard non plus, puisqu'il parle des pulsions d'attachement, je pense que ça a un sens, la théorie de Bowlby, dans le cadre d'une vision du développement des pulsions libidinales à partir de la deuxième théorie des pulsions de Freud, non, pulsions de vie, pulsions de mort. Mais quand il n'y a pas la mère à disposition, quand il n'y a pas un objet de sécurité, qu'est-ce qui vit le sujet général, si vous voyez la théorie kleinienne, ce qu'il vit, c'est des angoisses d'annihilation, qui sont des angoisses de perte du sentiment d'identité, sont difficiles à décrire, il y a beaucoup de descriptions dans la littérature, vous le connaissez aussi bien que moi, de Winnicott, angoisse, etc., de Bion ou autre, angoisse catastrophique, face auquel le sujet, et ça on le voit dans les fonctionnements psychotiques, il vit, il ne peut sortir du sentiment de catastrophe que par des mécanismes narcissiques et primitifs, c'est-à-dire par l'identification avec les aspects qu'il vit comme persécuteurs et comme menaçants de l'objet. Ces fonctionnements narcissiques et primitifs, la transformation de passif en actif dans la théorie de Freud, serait, dans la théorie de Klein, serait identification avec l'objet idéal persécuteur, pour Klein-Rosenfeld. Ces premiers mouvements s'accompagnent de fantasmes tout puissamment agressifs, défensifs, qui sont très chargés de destructivité et qui génèrent une très grande culpabilité. Parce que c'est ainsi que la perte est fantasmée dans le narcissisme primitif de l'enfant comme étant la propre responsabilité du sujet. Et la destruction catastrophique des objets, la perte irrécupérable, comme générant des sentiments de culpabilité accablante, insupportable, qui ne peuvent qu'être projetés et attribués à un objet persécuteur, les méfaits de cette culpabilité accablante. Ça, nous le voyons, ce que nous avons appelé la conflictualité dépressive parapsychotique, dans la plupart des troubles psychotiques, archaïques ou schizophrénique, dans les troubles graves de la personnalité, borderline, schizoïde, paranoïde, etc. Et cette conflictualité dépressive parapsychotique, que vous voyez que ça repose sur la notion de que la position dépressive apparaît d'emblée, la capacité de percevoir l'objet et d'avoir une intégration à son égard, mais l'incapacité de supporter les angoisses de la perte amène des angoisses d'annihilation et amène le fonctionnement du moi narcissique primitif, c'est-à-dire de la position schizoparanoïde de Klein, et amène par conséquent l'avènement de défense archaïque et défense psychotique. Quand les fantasmes ne sont pas des destructions catastrophiques irrécupérables, mais sont des fantasmes de mort de l'objet, le sujet a plus de possibilités défensives. Il pourra employer ponctuellement les défenses archaïques, mais il va avoir tendance à employer les défenses maniaques pour annuler la mort et la transformer en objet interne, ou les défenses mélancoliques pour, s'identifiant aux aspects détruits, essayer de préserver et de mettre à couvert les aspects bons idéalisés de l'objet qu'il essaye de préserver dehors. Ce type de conflictualité paradépressive nous la trouvons dans les dépressions cliniques en général et dans la plupart des troubles de la personnalité, plus ou moins graves, alternant avec la parapsychotique et alternant avec des formes psychotiques parfois, ou pas, alternant à d'autres moments avec celle qui est déjà plus intégrée, les paliers supérieurs, que j'ai appelé la conflictualité dépressive paranévrotique, c'est quand les vécus de perte d'objets ne sont pas fantasmés comme la mort ou la destruction ou dommage grave de l'objet, mais sont fantasmés comme la perte de l'amour de l'objet. Il n'y a pas l'une ou l'autre des conflictualités dépressives qui existent de manière partielle et clivée dans chacun des sujets, dans chacun d'entre nous, nous avons des prédominances de l'une ou de l'autre en fonction de nos modes d'organisation. C'est pour ça que le sous-titre que je voulais mettre à ce livre, c'était « Articulation, la conflictualité dépressive, articulation entre la partie psychotique et névrotique de la personnalité. » Dans des situations de perte importante ou de deuil important, des fantasmes de destruction catastrophique, le sujet va devoir faire recours à des défenses psychotiques, inéluctablement. On a qu'à lire l'article de Klein, de deuil avec son rapport avec les états maniaco-dépressifs. Elle parle d'elle-même, de la perte de son propre fils, et on voit bien qu'elle passe par des moments psychotiques de fonctionnement mental, jusqu'à qu'elle arrive, peu à peu, à que prédominent les angoisses de mort, et peu à peu, à apparaître, on voit bien la coloration édipienne avec laquelle elle voit son fils, sous la forme de sentiments de perte de l'amour de l'objet. Quand prédominent donc les fantasmes dans la conflictualité dépressive paranévrotique des pertes de l'amour de l'objet, c'est là où le sujet va s'organiser, volens nolens, en essayant de créer un lien idéalisé qui est le lien incestueux et qui devient l'objet de la sexualité infantile avec un objet, en général. C'est l'objet incestueux, et il va attribuer le vécu des pertes et la responsabilité de la perte à la personne entière qui s'organise comme dérivale. Et c'est ainsi que la problématique névrotique va apparaître dans le cadre de l'intégration de la condition dépressive, dans l'idée de Klein. Je crois qu'avec cette subdivision des diverses conflictualités dépressives, c'est plus clair de suivre les aléas progressives et régressives aussi bien dans le développement de l'enfant que dans le fonctionnement psychique, dans le cadre de la cure, où on n'est pas né ni névrotique ni psychotique, on est continuellement en train d'osciller autour de la nature et l'intensité de la conflictualité dépressive qu'il y a avec. Ça, à mon avis, c'est l'élément central de ce livre. S'il y a quelque chose qui marque la parentalité et la culpabilité, et s'il y a quelque chose qui rime avec parentalité, c'est la dépressivité. La preuve, il y a autour de 10 à 12% de dépression postpartum. Ça ne concerne pas les femmes seulement, ça concerne aussi bien les pères. Seulement, ils se défendent de manière maniaque le plus souvent. Mais c'est la parentalité qui m'a le plus permis de mettre en évidence une recommandation technique, et là je m'arrête, c'est quand même l'importance d'essayer de déceler les sentiments de culpabilité qui viennent du narcissisme infantile tout puissant, qui sont accablants et qui mobilisent, eux, des défenses très rigides et très appauvrissantes pour la vie psychique. Et une des recommandations techniques centrales de ce livre est de faire plus emphase dans la situation transférentielle aux affects, et en particulier aux affects dépressifs et de culpabilité tout particulièrement, dont la toute-puissance amène, comme je répète, des fonctionnements défensifs très radicaux et très rigides, et plutôt qu'à la pulsionnalité. Parce que c'est vrai que pointer la pulsionalité dans la relation transférentielle, c'est-à-dire aussi bien l'agressivité que les fantasmes sexuels, la sexualité infantile, soulève très souvent des réactions surmoïques très importantes, par conséquent des sentiments de culpabilité et par conséquent soit des résistances, soit des régressions, aussi bien dans la cure type que à n'importe quelle autre intervention psychothérapeutique. Je pourrais en dire encore davantage du rôle de la place du masochisme à côté de l'enfance mélancolique, de l'importance de l'assouplissement du surmoi sur le plan technique, qui est très intimement lié à ce que je viens de dire, surtout dans ses formes archaïques dans la relation transférentielle. Mais je m'arrête ici dans cette espèce de survol des thèmes essentiels pour lui donner la parole à Bernard et comme ça engager un dialogue avec vous.
Merci beaucoup. Bon, je crois que mon rôle, c'est discutant, je ne sais pas, ce que je voudrais, c'est essayer de, par quelques questions courtes d'ailleurs, te pousser un petit peu dans tes retranchements pour essayer d'éclairer le trajet du lecteur ou du futur lecteur au fil de ce livre, qui est un livre extraordinairement fécond, mais dense aussi. Hein, où tu disais tout à l'heure que c'est un aboutissement. Là, alors, la question journalistique, c'est à quel moment ça t'a sauté aux yeux que l'affect dépressif était comme ça en position centrale du développement et de la pathologie?
La tristesse fait partie intrinsèque de notre existence et que si elle est difficilement supportable et que si on a tendance à dire je n'ai pas peur, c'est parce qu'elle est menaçante derrière. Il y a une menace derrière la tristesse, c'est la menace de que la perte qu'elle implique peut prendre de proportions catastrophiques et annihilantes. C'est pour ça que les petits enfants, c'est curieux, je ne sais pas si ça vous a frappé, mais l'étude de la dépression de l'enfant, plus jeune est l'enfant, dans le livre Les diagnostics structurels, nous avons étudié 144 cas, duquel il y en avait plus de la moitié qui étaient des organisations paradépressives. Eh bien, plus jeune est l'enfant, plus la tendance à dire Dieu est triste, non. Et il faut l'explorer avec détail. Et alors, le soir, quand tu te couches, tu te dis comment tu t'endors tout de suite? Non, non. Est-ce que des fois il y a des choses qui te tournent dans ta tête, tu as des soucis? Oui. Des soucis de quoi? Est-ce que ton papa meurt? Oui. Qu'il ait un accident? Est-ce qu'il t'arrive de pleurer? Oui.
Deuxième question, donc le titre, dépression de vie, dépression de mort, évidemment ça résonne beaucoup, ça nous fait penser au livre de Green, hein, Narcissisme de vie, narcissisme de mort. Alors je voulais te demander, où tu vois vraiment la démarcation? Qu'est-ce que c'est que la dépression de vie, finalement? Et qu'est-ce qui fait qu'on passe de l'un à l'autre, ou qu'on oscille peut-être?
C'est vrai que si j'aime et que j'insiste surtout sur la dépression de mort, je suis très d'accord avec toi. Mais quand tu te mets à réfléchir, quand on se met à réfléchir, on se dit que la créativité n'a pas sa raison d'être s'il n'y avait pas une nécessité inéluctable de réparer dans le sens le plus large du terme, c'est-à-dire de reconnaître que ce qu'on imaginait comme potentiellement détruit ou susceptible de l'être est transformable de manière nouvelle et créatrice.
Tes écrits, il y a les oscillations entre positions dépressives et positions schizoparanoïdes, il y a les oscillations entre les différents paliers de la conflictualité. Je me demandais si tu n'étais pas en train de chercher, sans nous le dire vraiment, mais en te le disant sans doute à toi-même, une nouvelle définition de la structure en termes dynamiques et en termes de topic dyadique ou triadique.
Et non seulement ça, que tu as raison, mais de la jeunesse des structures aussi. Aussi parce que par exemple, quand tu me demandais avant ma préoccupation pour les sentiments dépressifs, c'est vrai que ce qui me frappe le plus, quand même, c'est que nous sommes en train de faire une recherche maintenant sur le trouble du comportement du bébé, du point de vue thérapeutique, de thérapie mère-bébé, présentant des problèmes de comportement enfant dynamique, difficile, agressif. Et ce qui frappe le plus, c'est quand même comment ces bébés qui présentent des problèmes sérieux, des comportements certains d'entre eux, des comportements très difficiles, ce sont des cas très difficiles à traiter, beaucoup plus difficiles, comment ils présentent pour les 60% d'entre eux un trouble de l'humeur dans la classification 0 to 3. Il l'appelle trouble de l'affect. C'est un très mauvais terme que les Américains ont introduit, de mettre l'affect qui est autre chose à la place de l'humeur. Mais bon, il les appelle trouble de l'affect dans cette classification. Ce sont des troubles de l'humeur accompagnantes qui ne sont pas vus. J'entends par là que très précocement, l'humeur et ses troubles jouent un rôle dans la genèse des structures. Parce que l'évolution de ces enfants...
Ça c'est un point fort hein, de ta pensée, ça. Ah, l'affect oui, joue un rôle dans la genèse de la structure.
De la structure. Et les diagnostics structurels, les livres de diagnostics structurels, l'ont fait autour des troubles de l'humeur. Mais génétiquement parlant, dans la genèse des structures, lorsque le trouble de l'humeur apparaît, et puis d'ailleurs je pense à un travail à toi qui parlait de dépression et d'autisme, un de tes premiers travaux que tu as présenté à la WEM, je crois que c'était à Stockholm. Et quand le trouble de l'humeur apparaît précocement, les mécanismes, c'est-à-dire la première année, pour simplifier et schématiser, si apparaît la première année de la vie, la possibilité de surgissement de troubles graves de la personnalité ultérieure est de plus de 50% des cas. Si le trouble de l'humeur apparaît la deuxième année, que c'est là où je parle, sont des troubles de la personnalité plus légers qui ne sont pas nécessairement des disharmonies graves, des troubles psychotiques.
Est-ce que tu dirais que c'est la qualité du travail d'identification projective ou de son échec qui contribue à la démarcation entre dépression de vie, dépression de mort, justement?
Évidemment. Et c'est surtout la transformation des identifications projectives pathologiques, de nature narcissique, en...
Pour toi, c'est un credo. Il y a tout développement, même normal, se joue en termes de conflictualité.
Et comment ça pourrait être autrement? Du moment où l'enfant n'est pas continuellement dans un échange relationnel, et en plus, n'est pas continuellement dans des échanges positifs qui soulèvent des affects, des joies, des partages, d'avec la mère. Si, même dans les cas où ce type d'échange prédomine, que c'est les credos à eux, même dans les cas où ce type d'échange prédomine, il y a quand même, c'est l'œuvre de Tronic qui le montre, des continuels désajustements et des nécessités de réajustement. Ces réajustements, même dans les cas d'interaction qui se réajustent positivement, ce qui n'est pas toujours le cas, l'enfant va vivre un conflit. Il va pouvoir ou ne pas pouvoir ajuster. Je parle toujours dans les cas idéaux. Nous savons combien de désajustements il y a qui ne se réajustent pas. Et surtout, nous savons combien de ruptures il y a de la relation dans lesquelles l'enfant reste livré à lui-même et par conséquent à des angoisses qu'il doit négocier et qu'il doit par conséquent en faire une transformation pulsionnelle. Donc, moi, ça me paraît, cette vision de la vie psychique, comme un montage vidéoscopique, où on coupe les interactions et après on les monte ensemble et on généralise, me paraît un tout petit peu simple.
Tu as écrit, il y a quelque temps, un article très très éclairant sur la question du rythme des séances. En disant, au fond, que le rythme des séances, trois fois par semaine ou une fois par semaine, ça ne fait pas du tout le même effet selon les enfants. Si on propose une fois par semaine ou si on propose trois fois par semaine, c'est qu'on n'a pas la même idée de la structure de l'enfant. Par rapport à ces différents paliers de la conflictualité dépressive, qu'est-ce que tu pourrais nous dire là, à propos du rythme des séances?
Ça, c'est quelque chose auquel j'y tiens beaucoup. Je crois que... moi, j'ai fait mon analyse à 5 séances par semaine pendant 11 ans. J'en ai fait d'autres à 2... J'en ai fait d'autres à 4 séances par semaine pendant 12 ans. Donc j'ai fait beaucoup d'expériences différentes en éthique. Ça change la fréquence des séances. Et puis j'ai fait des analyses à 5 séances par semaine, moi aussi, à des gens, etc. Ça change quoi? Ça change deux choses. Une, du moment où on voit quelqu'un d'une manière très soutenue et très régulière, s'il s'agit d'une structure névrotique, on lui donne un soulagement extraordinaire de se trouver dans une relation dans laquelle il est en communion avec un objet qu'il idéalise, que classiquement on appelait la lune de miel. Avec un borderline, il va avoir quand même un fantasme de fusion avec un objet beaucoup plus grandiose, parce qu'il va avoir défensivement besoin d'idéaliser davantage. Mais quand il arrivera le week-end, bam, il y aura une rupture. Et la rupture va être différente de comment elle est vécue et les défenses qu'elle soulève, que si cette rupture a lieu, si vous voyez la personne deux fois par semaine, parce que vous avez la rupture tous les deux jours. Et par conséquent, les fantasmes narcissiques, que ce soit de type édipien par le névrotique, ou que ce soit de type psychotique dans le sens de narcissique idéalisé ou idéalisant dans le borderline, ne pourra pas se monter de la même manière, ne pourra pas s'organiser. C'est pour ça qu'avec un rythme soutenu de séance, vous pouvez traiter un borderline s'il n'est pas trop désorganisé. À 5 séances par semaine, ils sont encore traitables. Si l'analyste ne fait pas trop d'interruptions et ne prend pas trop de vacances, ils sont traitables. Si vous les voyez deux fois par semaine, vous devez faire comme Kemberg. Vous devez faire un travail de soutien très intense du moi du sujet qui, vivant des angoisses dépressives trop violentes et catastrophiques, il ne peut que faire recours à l'acting out, c'est-à-dire aux défenses psychotiques. Et donc, le rythme des séances, un névrotique supporte un rythme peu soutenu. Pourquoi? Parce que lui, il a la capacité de vivre la perte de manière triangulaire. C'est le tiers qui le prive de la relation dans son fantasme, c'est ce que vous allez travailler. Mais vous prenez un borderline et vous créez une situation qui peut être iatrogène, dans certains cas, on le voit, des chaos d'acting.
Mais là, tu raisonnes plus en termes de névrose, borderline, psychose, qu'en termes de conflictualité.
Mais c'est en fonction de l'intensité de la conflictualité dépressive qu'on génère par un rythme de séance très soutenu. Ou très soutenu.